l'universalité du problème de la colère et la difficulté que nous rencontrons à gérer cette émotion. Les gens sont en colère et se rendent compte que leur colère, elle est destructrice. Et qu'il vaut mieux, au fond, détruire des ordinateurs qui sont réservés à la casse plutôt que de détruire son ordinateur au boulot. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Ou la vaisselle chez soi, ce n'est pas terrible non plus. En plus, au Carnage Club, ce n'est pas vous qui faites le nettoyage. Mais les embouteillages, les ordinateurs ou les imprimantes, les retards de train, les files d'attente, les collègues, les voisins bruyants, les chiens, les chats. Ça, c'est, je ne sais pas, je parle pour moi, pour ma famille. Le conjoint ou les enfants, la nourriture trop ou pas assez cuite, tout peut déclencher notre colère. Et la colère, c'est une émotion qui est extrêmement dangereuse. Des études récentes soutiennent que les sentiments de colère réguliers augmentent le risque de maladie cardiaque. Et que dans les 2 heures suivant l'explosion de votre colère, les risques d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral montent en flèche. Ce qui signifie que tous ceux qui se mettent en colère doivent faire très attention. La colère est une émotion dangereuse, mortelle. Les proverbes nous mettent en garde, justement, fréquemment, contre les conséquences désastreuses causées par nos colères. Le proverbe 29 dit « L'homme prompt à la colère provoque des querelles et celui qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. » La colère provoque de nombreuses occasions de péché. Nos paroles peuvent être terriblement blessante, meurtrière. Nos actions sous l'impulsion de la colère sont le plus souvent, pour ne pas dire toujours, néfastes, disproportionnées, injustes, coupables. Un exemple, l'homme qui vocifère derrière son volant au milieu des embouteillages contre une mamie qui s'y reprend à 3 reprises pour faire son créneau et il démarre en trombe, grille le feu qui vient de passer au rouge et percute un jeune garçon sur son vélo. Voilà ce qu'accomplit notre colère parfois. Maudite colère. Les proverbes dénoncent ce comportement insensé. Proverbe 14, verset 17. L'homme coléreux fait des sottises. Celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Le colérique agit comme un imbécile. Il perd tout sens, tout contrôle. Et à l'inverse, les proverbes vantent la maîtrise de soi. Toujours proverbe 14. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Nos colères ne sont pas sans conséquences. Des conséquences catastrophiques. Souvent, elles sont immédiates, comme on vient de le voir. Mais elles exercent également une influence sur notre entourage. Proverbe 22, versets 24 et 25, « Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. » Nos enfants en particulier vont apprendre de nous sur ce qui provoque notre colère et sur la manière de l'exprimer. Oh, toutes les colères de nos enfants ne sont pas apprises par les parents. Il y a une partie qui est innée. Par exemple, le jour où l'un de mes enfants a mordu un petit camarade à la crèche, J'ai expliqué à l'assistante maternelle que ni moi ni ma femme n'avions cette habitude de nous mordre. Par contre, si je suis en colère, parce que le reste de la famille n'est pas prête à l'heure pour partir le dimanche matin, rejoindre nos frères et sœurs pour louer Dieu, et que je crie sur tout le monde, klaxonne dans la voiture, puis roule comme un dératé, alors j'enseigne à mes enfants qu'on peut se crier dessus, qu'on peut conduire d'une manière dangereuse lorsque la famille est en retard le dimanche matin, et adorer le Seigneur avec une attitude de cœur comme celle-là. Mais j'ai tout faux. Les proverbes disent encore, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Vous avez remarqué comment la colère est contagieuse ? Le patron se met en colère à cause des mauvais résultats de ses employés. Il s'en prend à son équipe, il remet la pression. Du coup, l'un des employés rentre du boulot, irrité, il râle parce que la maison est mal rangée. Sa femme prend la chose en pleine face. Elle crie sur son gamin qui est en train de jouer à la Game Boy et qui n'a pas rangé ses chaussures. Le gamin se lève, râle, shoot dans la chaussure. Et la chaussure vient se loger dans la gueule du chien. Le chien détale, il sort et il va mordre le facteur. Et tout ça à cause du patron qui a remis la pression. Prochaine fois que notre factrice de l'église se fera mordre, tu penseras au patron. Non mais, notre colère, notre manière de gérer notre colère impacte directement notre entourage. C'est dramatique. Et c'est pourquoi les proverbes enseignent encore, les sages calment la colère. Néanmoins, la colère, c'est aussi une émotion qui est partagée. La colère la plus facilement identifiable, et celle qui nous vient en tête immédiatement quand on parle de colère, c'est bien évidemment celle qui éclate et qui a donné vie à toutes nos expressions et métaphores. On a un vocabulaire très, très imagé pour parler de la colère, la métaphore électrique par exemple, péter un câble, ou un fusible, ou les plombs, une métaphore culinaire. Avoir la moutarde qui nous montonnait, bouillir. Plus technique, sortir de ses gonds. Ou pyrotechnique, exploser, s'enflammer, faire des étincelles. Puis des expressions plus colorées comme être vert de rage, voire rouge, ou entrer en colère noire. C'est souvent de cette colère-là dont on parle. Quand on pense à la colère. Mais attendez, la colère est bien plus qu'un problème pour les gens qui laissent éclater leur colère, qui ne contrôlent pas leurs nerfs. C'est en fait un problème pour nous tous. David Polisson, qui a écrit un livre sur la colère, et je ne pense pas qu'il y ait 36 livres sur le sujet, un excellent ouvrage que vous trouverez dans une très bonne librairie à la sortie de cette église. Il a écrit, tout être humain fait face à la colère. Dans un monde de déception, d'imperfection, de malheur et de péché, les nôtres et ceux des autres, la colère est une réalité incontournable. Vous vous mettez en colère. Je me mets en colère. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la Bible est remplie de récits, d'enseignements et de commentaires à propos de la colère. Dieu veut que nous la comprenions et que nous sachions comment la résoudre. La vérité, c'est que tout le monde se fâche. Simplement, la colère s'exprime de manière différente. Pour certaines personnalités, la colère se manifeste par des irruptions volcaniques, des paroles accusatrices ou sarcastiques, des jurons, des exagérations, des gestes, des coups, des soupirs de mépris, des menaces, des regards belliqueux, furieux. D'autres restent stoïques, se ferment, communiquent froidement leur irritation. Cette colère peut dégénérer facilement en arrogance, en médisance, en apitoiement sur soi, en vengeance, en cynisme ou en accusation impitoyable. Pourquoi les Israélites murmuraient-ils dans le désert? La Bible ne laisse planer aucun doute là-dessus. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas cru en la bienveillance et en la puissance et en la sagesse de Dieu. Alors, ils étaient en colère et leur colère s'exprimait par des murmures continuels. Si vous murmurez tout le temps, si vous êtes un râleur fini ou une râleuse finie, pensez à cela. Il y a quelque chose en vous qui est en colère. Il y a quelque chose que vous ruminez. Il y a quelque chose comme le peuple d'Israël dans le désert. Une colère que vous n'exprimez que comme cela. Il n'y a pas besoin d'éclater pour être en colère. La colère peut être sourde et elle peut être meurtrière, comme celle d'Absalom. En 2 Samuel 13, j'aimerais vous lire quelques versets. 2 Samuel 13, David avait eu plusieurs femmes. Le roi David, grand roi d'Israël, avait eu plusieurs femmes. Et avec ces femmes, il avait eu plusieurs enfants, plusieurs fils. Et l'un de ses fils, Amnon, a violé une de ses filles, une des filles de David, d'une autre femme. Alors le frère, même père, même mère, de cette jeune femme, Tamar, Absalom, est venu voir sa sœur. Voilà ce qu'il lui dit. 2 Samuel 13, verset 20. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? C'est-à-dire, a-t-il couché avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Quand je lus ce passage, je me disais, c'est fou à l'époque ce qu'il faisait. Et j'ai réalisé, c'est exactement comme cela qu'on fonctionne encore aujourd'hui. La plupart des abus sexuels se finissent comme ça. Tais-toi. Ne dis rien. Garde le silence. Et chez la victime, et chez son entourage, naît alors une colère, une furie, qui s'est jamais exprimée, qui n'a jamais été partagée. Et voilà ce qui se passe, verset 23. Deux ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatsor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Je vais vous résumer la situation. Le moment de la tonte, c'était les moments festifs pour toutes les bergers. Et alors là, il a les tondeurs, tous ses troupeaux, ça va être une source de revenus extraordinaire pour pour lui et tous les siens. Alors, il décide d'inviter tous ses frères. Et David. Et David dit, non, écoute, ça va faire beaucoup de boulot, c'est trop de... Non, laisse tomber. Et Absalom insiste. Il lui dit, bon, écoute, au moins mes frères, si toi tu viens pas, au moins mes frères. Non, 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 écoute. Alors il dit, au moins Absalom, au moins Amnon. Au moins Amnon. Quand même, c'est le fils aîné. Et David dit, ok, Amnon. Verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention. Quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne ? Soyez fermes et montrez du courage. Voilà ce qui s'est passé. 2 ans plus tard, il n'avait pas dit un seul mot à Amnon, mais sa colère a fini par éclater et ravager et tuer son frère. Notez au passage que David avait été très en colère, très irrité par la situation, par le viol de cette fille. Mais il n'a rien fait. Strictement rien fait, rien dit. Ah, la colère. Voyez-vous, on peut être en colère sans exploser. Mais sa présence peut aisément se déceler dans une de nos attitudes. Parfois la haine, comme ici. Parfois la critique, l'hostilité, l'esprit de jugement, l'amertume, la rancœur, le négativisme, toujours défaitiste, toujours à râler, les disputes, le mécontentement, la manipulation, la contrainte qu'on exerce sur tout le monde, sur sa famille. Et donc la question n'est donc pas de savoir qui se fâche, mais pourquoi on se met tous en colère. Et ça, c'est la chose importante que j'aimerais relever avec vous ce matin. Notre colère est directement liée à notre amour. Un amour qui est la plupart du temps désordonné. La colère, c'est notre réponse à tout ce qui met en danger quelque chose que l'on aime. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais dans mon bureau, et il y a une dépanneuse qui est venue se garer sur notre parking. Jusque-là, tout est normal. Et elle a commencé à décharger une vieille camionnette accidentée le long de notre bâtiment, là. Et le véhicule est venu s'écraser sur notre portail. Je suis allé regarder à la fenêtre. J'ai ouvert, monsieur, ça touche là. Je suis descendu, comme j'étais pas très souriant sur le moment, le voisin d'en face à qui était destiné le véhicule est venu un petit peu en hâte, et puis il a commencé à dire, oula, oui. Alors, je dis, ben là, vous allez nous démonter le portail, allez-y, reculez encore. Et pendant qu'on discutait, le véhicule se vidait d'une huile bien noire sur notre dalle. Et là, j'ai commencé à lui faire comprendre que j'étais pas très content de la situation, disons. Finalement, ils ont bougé le véhicule, le portail n'est pas vraiment abîmé, et ils ont nettoyé la flaque d'huile. Mais qu'est-ce qui a provoqué ma réaction ? Aurais-je réagi de la même manière cet épisode s'était passé chez le voisin ? Si c'était le portail du voisin et la dalle pleine d'huile du voisin que... J'aurais regardé ça, probablement de ma fenêtre, amusé peut-être. Quel est le problème ? C'est exactement la même chose qui se passe. Toujours de la ferraille, du béton, de l'huile. Pourquoi est-ce que ça, je réagis comme ça? En fait, ce n'est pas un simple portail ou une simple dalle de béton devant un bâtiment semi-industriel. Non, c'est notre bâtiment que nous utilisons pour nous réunir chaque dimanche, que nous avons financé avec nos propres deniers, et c'est notre portail que nous avons peint nous-mêmes, et que c'est notre dalle que nous avons coulée nous-mêmes, par nos mains, et même si elle n'est pas bien lisse, elle nous appartient, et nous sommes contents qu'elle y soit. Ma colère, elle est liée à l'amour que j'ai pour ces lieux, et tout ce qui menace l'intégrité de ces lieux provoque ma colère. C'est comme ça que fonctionne notre colère. Quelque chose que l'on aime est mis en danger. À bien des égards, nos colères peuvent être justes. Il est juste que je sois en colère contre une personne qui agresse ma femme ou mes enfants. Il est juste que je sois en colère contre des personnes qui exploitent des jeunes filles, les mettant sur le trottoir. Il est juste que je sois en colère contre les terroristes de l'État islamique qui font périr des innocents et qui réduisent des peuples à l'esclavage. Mais si je suis honnête, même s'il existe de bonnes raisons d'être en colère, la plupart du temps, ma colère à moi, elle n'est pas liée aux menaces qui entourent ma famille, ni aux injustices qui se produisent dans le monde ou sur les trottoirs de notre ville. En général, ma colère, elle pointe vers d'autres amours, beaucoup moins nobles, ou des amours démesurés, qui prennent des bonnes choses pour les rendre ultimes. Prendre des bonnes choses pour les rendre ultimes, c'est la différence entre le fait d'aimer ses enfants et de vouloir qu'ils réussissent professionnellement et de penser que vous avez raté votre vie si vos enfants ne réussissent pas leurs études et ne décrochent pas un poste bien en vue. C'est ça la différence. C'est sensible. Mais il y a une question d'amour là, pour moi-même. Il n'y a rien de mal à se mettre en colère. Jusqu'à un certain point, hein, bien entendu, si une personne porte atteinte à votre réputation. Mais pourquoi sommes-nous 10 fois ou 100 fois plus en colère pour cela que pour d'horribles injustices infligées envers des milliers de personnes ailleurs dans le monde? Si nous nous mettons en colère lorsque nous estimons ne pas être reconnus à notre juste valeur ou lorsque nous nous sentons sous-estimés par nos collègues, que nous sommes bloqués dans des embouteillages, contraints par des travaux ou un accident ou je ne sais quoi. Si nous ne sommes pas respectés comme nous l'attendions de la part de nos enfants ou de notre conjoint, est-ce que le problème pourrait être que nous nous aimons trop ? Nous devrions essayer d'analyser notre colère, d'analyser ce qui nous met en colère, comprendre la source. Nous devrions nous poser la question lorsque la moutarde commence à nous monter au nez ou que nous ressentons de l'irritation, quelle est cette chose si importante pour moi pour que je réagisse de cette manière? Qu'est-ce que j'aime tellement en ce moment pour que mon cœur soit poussé à se sentir en colère? Si je reprends l'exemple d'un père qui s'irrite parce que la famille n'est pas prête, le pasteur que je suis s'irrite parce que la famille n'est pas prête pour aller à l'église le dimanche matin. On va être en retard. Quel est le problème derrière ça? Est-ce que c'est mal que de vouloir être à l'heure? Non. Mais si derrière ça, c'est l'amour que j'ai pour moi. J'aimerais bien que mes frères et sœurs puissent dire « Oh, le pasteur est toujours là de bonne heure. Toujours là pour nous écouter. Toujours là pour... » Si c'est ça, alors c'est néfaste. Il y a un problème d'amour là qui est disproportionné. pour comprendre notre colère, on a besoin parfois d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre cœur. Tim Keller, il dit, si vous vous posez cette question, qu'est-ce que j'aime tellement en ce moment pour que mon cœur soit poussé à se sentir en colère? Si vous faites cette analyse, le plus souvent, vous serez immédiatement gêné. Car très souvent, ce que vous défendez, c'est votre ego, votre fierté, votre estime. Vous avez déjà vu ce film « Une heure de tranquillité » un film de Patrice Lecomte avec Christian Clavier. Christian Clavier, il joue le rôle d'un homme passionné de jazz qui vient de dénicher un album rarissime. Il rêve d'écouter cet album tranquillement dans son salon, prendre une heure de pur bonheur. Il rentre chez lui, il sort le vinyle, il le pose sur la platine, il installe et à ce moment-là, la femme de ménage déboule avec l'aspirateur. Il arrête tout, il va voir, il dit, non, pas de ménage aujourd'hui, allez, rentrez chez vous, vous avez votre après-midi. Ensuite, c'est sa femme qui vient, au moment où il redémarre le truc. Sa femme dit, je voudrais te parler d'un truc très important. Oh chérie, pour lui, le plus important, c'est son album, là. Et puis, sans cesse, c'est comme si le monde entier s'est ligué contre lui et ne veut pas qu'il jouisse de ce moment de tranquillité, ce moment de pur bonheur. Le voisin déboule, son fils vient, qui vient jamais, il déboule ce jour-là. Sa mère ne cesse pas de l'appeler sur son téléphone portable, etc. Sans parler de ce que ce jour-là, c'est la fête des voisins. Et tout l'immeuble va vouloir venir se réunir chez lui. Du coup, il est manipulateur, il est menteur, il est prêt à tout pour avoir la paix. L'analyse est terrible. Il est prêt à tout pour une heure de tranquillité, pour écouter son album. Il est en colère contre tout ce qui pourrait se liguer, se mettre en travers de ce moment. Il ment, il manipule, il sacrifie ses amitiés, il sacrifie sa famille pour son confort égoïste. Voilà un amour qui est désordonné, démesuré, qui prend la place de Dieu. Il ne peut pas être heureux s'il n'a pas ce moment-là, maintenant. Et donc, on a besoin de comprendre notre colère. Quel est l'amour qui a rempli notre cœur à ce moment-là? Et pour essayer de comprendre et de régler notre colère, je vous propose quelques questions pour finir. D'abord, pourquoi sommes-nous en colère? Est-ce que notre colère est juste? Vous savez, notre colère, elle reflète toujours nos standards moraux, nos habitudes. Par exemple, si vous mangez avec vos doigts, si quelqu'un, vos enfants mangent avec leurs doigts, s'ils mangent avec une main sous la table, ou s'ils rotent à la fin du repas, selon votre culture, vous serez tellement content ou tellement offusqué, en colère. On a juste des standards différents. En France, on ne mange pas la main sous la table. En France, on ne mange pas avec ses doigts. Mais il y a quantité d'autres pays où si vous prenez une fourchette pour manger de la loco, non, ça ne va pas, ça se mange avec les doigts, ça. Dans la même gamelle avec tout le monde. C'est ça le moment convivial. Et donc, notre colère, elle reflète des standards. Et notre colère, elle reflète notre définition du bien ou du mal, de la justice ou de l'injustice. Le problème, c'est que nos cœurs sont pécheurs, et du coup, ce que nous appelons juste n'est pas nécessairement juste. Ça reflète juste nos valeurs. Et du coup, c'est tellement important de savoir si notre colère est justifiée. Et pour savoir si elle est justifiée, on devrait se demander, est-ce que Dieu est en colère pour ce genre de choses? Vous vous souvenez de Jonas? Jonas est envoyé, est prophète envoyé par Dieu pour prophétiser à Ninive, la destruction de Ninive. Au début, il ne veut pas y aller, il préfère que Dieu détruise Ninive tout de suite. Finalement, Dieu le contraint, il y va. Et quand il y va, il délivre le message, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et Ninive se repent. Du roi de Ninive jusqu'au plus petit des sujets, tout le monde se repent. Sincèrement devant Dieu. Et Dieu est satisfait de cette repentance. Et il pardonne à Ninive. Alors, Jonas entre dans une colère. J'en étais sûr! J'étais sûr que si tu m'envoyais, ils allaient se repentir. Et comme tu es un Dieu qui est plein de compassion et de miséricorde et qui aime faire grâce, eh bien tu leur as fait grâce, t'es sûr! Et Dieu dit à Jonas, « Jonas, fais-tu bien de t'irriter ?» Je fais bien. Il monte sur les hauteurs de la ville, regarde, veut voir un peu ce qui se passe dans cette ville. Et puis là, il se fait une petite cabane et Dieu fait pousser un ricin qui protège Jonas avec son ombre. Et le lendemain, un ver, Dieu envoie un ver qui ronge le ricin, et le ricin se dessèche. Et là, à ce moment-là, il se met en colère. Et ben voilà! Voilà, le ricin, il détruit, voilà, tout séché, plus d'ombre. Et Dieu dit à Jonas, Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Tu te mets en peine pour une plante? Pour une plante verte qui meurt. Et tu me reproches de me mettre en peine pour une ville entière, 120 000 âmes, qui meurent. Tu vois pas le problème? Est-ce que ta colère est juste? Fais-tu bien de t'irriter? Je pense que c'est la première chose qu'on devrait se poser comme question. Est-ce que ce qui mérite, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment devrait mériter? La deuxième chose, c'est exprimons-nous notre colère de la bonne manière. C'est-à-dire, quelle est l'intention derrière notre colère? A-t-elle pour but de condamner ou d'offrir de l'aide? Notre colère est-elle une punition, une vengeance, ou pour mettre un terme au mal, pour protéger le faible, pour affronter les tyrans, pour avertir celui qui vit dans le désordre, pour alerter une personne qui court un grand danger? L'apôtre Paul, il dit en Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, « Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il y a une manière juste d'exprimer une juste colère. Troisième question. Combien de temps dure notre colère? Paul parle ici d'une colère d'un jour maximum. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà d'un jour, notre colère commence à se gâter. Elle pourrit. Elle mute en amertume. Quelque chose de sournois, quelque chose qui va gangréner notre cœur. La quatrième question et dernière question, à quel point maîtrisez-vous votre colère? David Polisson, dans son livre « Chrétien en colère », écrit « La colère doit être canalisée vers la destruction d'un problème et non pas la destruction d'une personne. Notre colère doit viser la destruction d'un problème, pas d'une personne. Le problème à Ninive, c'était le mal, c'était le péché. Régler le problème, c'était que les hommes changent. C'était pas détruire les hommes. Vous savez, c'est précisément là que le diable aimerait avoir un accès. Il dit, et ne donnez pas accès au diable. Le diable, ce qu'il souhaite, c'est que notre colère vise des gens. Et qu'on vise et qu'on détruise nos amitiés et nos relations. Ah, et rien n'est plus laid que d'ouvrir le couvercle de nos cœurs pour découvrir le type de corruption qu'engendre notre colère. Nous nous retrouvons bien sous la colère sourde d'Absalom ou sous la colère ou l'apitoiement de Jonas sur lui-même. Alors que pouvons-nous faire ? Certainement, nous pourrions nous repentir. Nous devrions nous repentir de nos mauvaises colères. Vous savez, ce moment où vous sentez que la colère vous monte là et où que vous allez accomplir quelque chose de mal ou qu'une parole va mal sortir de votre bouche. Vous savez ce qu'on devrait faire ? On devrait être là, cerné par Dieu et sortir les mains sur la tête. Coupable. Je veux pas mourir. Je veux pas tout détruire. Je veux pas... Se repentir, reconnaître que notre colère est injuste, ou bien que parfois notre colère juste produit ou s'exprime d'une manière injuste. La colère de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et puis enfin, on a besoin de comprendre quel amour désordonné a rempli mon cœur et provoqué ma colère. C'est souvent moi-même. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Je veux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. Et tout ce qui se jette en travers provoque ma colère. C'est très orgueilleux, au fond. Et puis, on a besoin de se tourner vers Dieu, qui est présent dans mes embouteillages, qui est personnel. Il sait que j'y suis. Il a quelque chose à faire dans cet embouteillage. Il est actif. Il veut travailler dans ma vie. Et Jésus a résumé le sens pour ma vie en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Quand j'oublie d'aimer Dieu, alors je commence à remplir mon cœur de moi-même. Tout s'articule autour de moi. Et j'aime davantage les bienfaits que le bienfaiteur. Dieu a fait les êtres humains à son image et il veut qu'on s'aime les uns les autres. Quand j'oublie cela, je me sens frustré et rempli d'animosité. Je me sens craintif. À ce moment-là, l'enfer, c'est les autres. Dans les embouteillages, c'est les autres. Mais l'instant où je comprends que Dieu m'a appelé à aimer mon prochain, je peux le laisser passer sans lui défoncer la voiture. Mais lorsque je me souviens que je vis pour aimer les autres, je deviens farouchement soucieux à des autres, de l'intérêt des autres. Et puis par-dessus tout, me souvenir de Jésus-Christ, qui a porté le poids de mon péché, qui a reçu sur lui la colère de Dieu. Il a reçu la colère de Dieu pour mes amours désordonnés. Il a reçu la colère de Dieu pour toutes les fois où je me suis emporté d'une manière injuste, commettant des choses injustes. Il a reçu la colère de Dieu à ma place. Et quand je le loue, il me délivre de cette colère. Alors que Dieu nous vienne en aide, les uns et les autres, selon le type de colère que nous avons, que Dieu nous secoure, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous aide à comprendre ce qui anime nos colères, qu'il nous en débarrasse et qu'il ramène cette colère sur des choses justes, sur des choses saines, pour mettre en œuvre une colère sainte, juste comme la sienne, pour accomplir et défendre l'opprimé.